L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Quand on pense à la pauvreté, on pense tout de suite aux personnes les plus démunies dans le monde, mais aussi en France, et c'est bien normal. Pourtant, ce que j'observe, c'est que les personnes des classes moyennes, mais aussi des classes populaires en France, ont de plus en plus de mal à s'en sortir. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup, et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, professeure d'économie au MIT, vous la connaissez sans doute, et ensemble on va se poser la question de savoir comment ça se fait qu'il y a un effondrement des classes moyennes et des classes populaires en Occident, et particulièrement aux États-Unis. On n'en parle pas beaucoup, comme je disais, et pourtant, pour moi, c'est derrière la montée de l'extrême droite, c'est derrière la grande sociale, c'est derrière toutes les manifestations qu'on voit en France. Et donc, on va se questionner pourquoi ça arrive, comment ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous laisse écouter l'épisode, j'espère que vous allez l'apprécier. Allez, Volant, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Esther.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien.
La première question qui me vient, c'est de me dire, quand je regarde l'état du monde et l'état des inégalités dans le monde, comment ça se fait qu'on en arrive à cette situation? Est-ce que c'est un problème autour de l'économie? C'est-à-dire que l'économie, c'est une théorie pour faire en sorte j'ai l'impression qu'il y a une sorte de partage des revenus. On réfléchit beaucoup à comment fonctionne cette économie. Et en même temps, on est dans une situation aujourd'hui où on a des profondes inégalités. Je ne sais pas si c'est des inégalités qui n'ont jamais été vues depuis le 19e siècle, comme le dit Thomas Piketty, mais en tout cas, qui sont très profondes et qui s'approfondissent, j'ai l'impression.
Il n'y a pas de fatalité dans l'augmentation des inégalités. Il n'y a pas de loi économique qui dit les inégalités doivent augmenter à chaque fois. En fait, c'est un choix. Mais ce n'est pas vraiment un choix économique, c'est un choix de société, c'est un choix politique. Comme le montre justement Thomas Piketty dans Une brève histoire de l'égalité, montre justement comment en fait les hommes sont parfaitement capables de s'organiser pour qu'il n'y ait pas une augmentation forte des inégalités. Et là, on a vu l'augmentation des inégalités s'opérer à des rythmes et des intensités différentes selon les pays, en réponse à des choix de politique différents. Donc, par exemple, au Royaume-Uni et en Angleterre, pendant la période Thatcher-Reagan, il y a un choix conscient qui est de réduire les impôts, de mettre les syndicats aux abois, de déréguler, etc. Et c'est ça qui conduit à une augmentation. C'est ces faits combinés qui conduisent à une augmentation très forte des inégalités qu'on ne retrouve pas à ce moment-là en Europe continentale.
Mais en même temps, Thatcher, c'est aussi une théorie économique. Enfin, j'imagine, je ne sais pas, je ne la connais pas, mais j'imagine que dans sa tête, c'était quand même pour le bien commun qu'elle a fait ça, non? Il y a quand même des théories économiques derrière.
Oui, il y avait une théorie économique qui était. Il y avait. Je ne sais pas si c'est. En général, quand les théories économiques sont reprises par les hommes politiques, elles sont assez appauvries. les hommes politiques, en général, sont esclaves de théories économiques qui datent d'au moins 10-15 ans quand ils ont appris Econ 101 et qui sont pas forcément... qui sont un peu... en général, ils sont pas allés jusqu'à Econ 102, donc c'est un peu simpliste. Mais enfin bref, elle avait... Oui, il y avait l'idée, à la fois au Royaume-Uni et en Angleterre à l'époque, aux États-Unis et au Royaume-Uni à l'époque, que ça pourrait faire redémarrer la croissance. Mais en fait, ça ne s'est pas fait.
Et en parlant de simplification de théorie économique, je pense qu'il y a une immense simplification qui a été faite autour de Friedman,
dans son article des années 70 autour de les entreprises doivent uniquement faire du profit. Je sais pas si vous voyez ce...
Oui, bien sûr, la responsabilité sociale de l'entreprise est de faire du profit. Cette phrase a fêté ses 50 ans l'année dernière. Alors, je ne sais pas si c'est une simplification de Friedman, parce que je crois que c'est vraiment...
C'est vraiment ce qu'il pensait.
Je crois qu'il y pensait, mais c'est vraiment une vision de l'économie. Par contre, c'est une vision de l'économie qui est très simpliste et qui est fausse. Et qui a d'ailleurs à contribuer, je pense, au fait que les gens n'aiment pas les économistes.
Sans doute. En parlant de simplification, là, vous avez sorti toute une série de livres pour les enfants. Comment on fait pour expliquer... Enfin, est-ce que c'est important d'expliquer l'économie aux enfants, déjà? Et comment on fait pour leur expliquer?
Étant donné que je viens juste de sortir 10 livres sur les enfants, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important d'expliquer l'économie aux enfants. Mais plus que d'expliquer l'économie, je ne sais pas si l'objectif, c'est vraiment d'expliquer l'économie, mais plutôt de montrer comment les enfants pauvres vivent. Et justement, d'éviter la simplification. C'est pour ça que 10 livres, c'est mieux que 1. Parce qu'en un livre, pour faire passer quelques messages, on deviendrait très vite, on sombrerait très vite dans les caricatures, les décisions à l'emporte-pièce, etc. Tandis que là, sur 10 livres, on a le temps de bien se poser. Chaque livre est sur un thème. Et puis, en plus du thème, il y a un petit peu des incursions sur d'autres choses, des moments où ils vivent leur vie, etc. Les livres sont illustrés par Cheyenne Olivier. Des illustrations qui sont à la fois magnifiques, mais aussi qui sont riches de détails. Et au fur et à mesure que les enfants liront et reliront ces livres, ils pourront de plus en plus s'approprier ces détails. Et en fait, chacun de ces détails est vrai. Et chacun de ces détails amène à montrer un petit aspect différent de ce que c'est que de vivre dans la pauvreté dans les pays en développement. Donc ces livres, même s'ils sont en destination des enfants, donc qui sont, et ça passe par le ressort de l'illustration et le ressort de la fiction, avec des fictions qui, je l'espère, seront intéressantes, en tant que les histoires soient intéressantes, elles il y a des rebondissements, elles sont séduisantes. Et en même temps, elles veulent précisément éviter la simplification.
Comment on explique aux parents que ça serait intéressant pour eux d'acheter ça à leurs enfants? Parce qu'en fait, c'est les parents qui vont l'acheter par définition. Mais...
Oui, à cet âge-là, parce que c'est plutôt destiné, c'est des livres qui sont destinés aux 5-8 ans. À cet âge-là, il y a beaucoup d'adultes prescripteurs, les parents, les enseignants, les bibliothécaires, les grands-parents. Et c'est vrai que c'est un public qui, en France, peut être un peu inquiet à l'idée de parler de pauvreté à ses enfants. Parce que c'est des sujets qu'eux-mêmes ne connaissent pas forcément, qui vont en général avec une petite dose de culpabilité, qu'on n'en fait pas assez, etc. Et avec une dose de tristesse et d'inquiétude. Peut-être les parents peuvent être inquiets d'amener de l'anxiété pour les enfants, soit l'éco-anxiété parce qu'on parle d'environnement, soit d'anxiété vis-à-vis de la pauvreté en général. Et justement, l'idée de passer par l'histoire, la fiction et ces illustrations qui ne sont pas hyper réalistes ou sépia,